bum 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 bum. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer quelques poèmes de Victor Hugo, ce grand poète, dramaturge, romancier. Il a écrit près de 663 poèmes. Bon, évidemment, je ne vais pas vous tous vous les sortir. Je vous en propose quelques-uns que j'ai choisis parce qu'ils me parlent, parce qu'ils résonnent en moi, parce qu'ils parlent à mon âme, et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Je commence avec « Les pauvres gens ». Il est nuit. La cabane est pauvre mais bien close. Le logis est plein d'ombre et on sent quelque chose qui rayonne à travers ce crépuscule obscur. Des filets de pêcheurs sont accrochés au mur. Au fond, dans l'encoignure où quelqu'un bleu vaisselle aux planches d'un bahut vaguement étincelle, on distingue un grand lit aux longs rideaux tombants. Tout près, un matelas s'étend sur de vieux bancs et cinq petits enfants, ni d'âme, y sommeille. La haute cheminée où quelques flammes veillent rougit le plafond sombre, et le front sur le lit, une femme à genoux prie et songe et pâlit. C'est la mère. Elle est seule. Et dehors, blanc d'écume, au ciel, au vent, au roc, à la nuit, à la brume, le sinistre océan jette son noir sanglot. L'homme est en mer. Depuis l'enfance, matelot. Il livre au hasard sombre une rude bataille, pluie ou bourrasque. Il faut qu'il sorte, il faut qu'il aille, car les petits-enfants ont faim. Le soir, quand l'eau profonde monte aux marches du musoir, il gouverne à lui seul sa barque à quatre voiles. La femme est au logis, cousant les vieilles toiles, remaillant les filets, préparant l'hameçon, surveillant l'âtre où bout la soupe de poisson, puis priant Dieu sitôt que les cinq enfants dorment. Lui seul, battu des flots qui toujours se reforment, il s'en va dans l'abîme et s'en va dans la nuit. Dur labeur, tout est noir, tout est froid, rien ne luit. Dans les brisants, parmi les lames en démence, l'endroit bon à la pêche et sur la mer immense, le lieu mobile, obscur, capricieux, changeant, où se plaît le poisson aux nageoires d'argent. Ce n'est qu'un point. C'est grand deux fois comme la chambre. Or, la nuit, dans l'ondée et la brume, en décembre, pour rencontrer ce point sur le désert mouvant, comme il faut calculer la marée et le vent, comme il faut combiner sûrement les manœuvres. Les flots le long du bord glissent, verte couleuvre. Le gouffre roule et tord ses plis démesurés et fait râler d'horreur les agrès effarés. Lui, songe à sa Janie, au sein des mers glacées, et Janie en pleurant l'appelle, et leurs pensées se croisent dans la nuit, divins oiseaux du cœur. Elle prie, et la mauve au cri rauque et moqueur l'importune, et parmi les écueils en décombre, l'océan l'épouvante, et toutes sortes d'ombres passent dans son esprit, la mer, les matelots emportés à travers la colère des flots, et dans sa gaine, ainsi que le sang dans l'artère, la froide horloge bat, jetant dans le mystère, goutte à goutte, le temps, saison, printemps, hiver. Et chaque battement dans l'énorme univers ouvre aux âmes et seins d'autour et de colombes, d'un côté les berceaux et de l'autre les tombes. Elle songe, elle rêve, et tant de pauvreté. Ces petits vont pieds nus l'hiver comme l'été. Pas de pain de froment, on mange du pain d'orge. Ô Dieu, le vent rugit comme un soufflet de forge. La côte fait le bruit d'une enclume. On croit voir les constellations fuir dans l'ouragan noir comme l'air tourbillon d'étincelles de l'âtre. C'est l'heure où, gai danseur, minuit gris et folâtre, sous le loup de satin qui illumine ses yeux, et c'est l'heure où minuit, brigand mystérieux, voilé d'ombre et de pluie et le front dans la bise, prend un pauvre marin frissonnant et le brise aux rochers monstrueux apparus brusquement. Horreur ! L'homme dont l'onde éteint le hurlement s'enfondre et s'enfoncer le bâtiment qui plonge. Il sent s'ouvrir sous lui l'ombre et l'abîme et songe au vieil anneau de fer du quai. plein de soleil. Ses mornes visions troublent son cœur, pareil à la nuit, elle tremble et pleure. Ô pauvre femme de pécheur, c'est affreux de se dire, mes âmes, père, amant, frère, fils, tout ce que j'ai de chair, c'est là, dans ce chaos. Mon cœur, mon sang, ma chair, ciel, être en proie au flot, c'est être en proie aux bêtes. Oh, songez que l'eau joue avec toutes ses têtes, depuis le mousse enfant jusqu'au mari patron, et que le vent hagard, soufflant dans son clairon, dénoue au-dessus d'eux sa longue et folle tresse, et que peut-être ils sont à cette heure en détresse, et qu'on ne sait jamais au juste ce qu'ils font, et que pour tenir tête à cette mer sans fond, à tous ces gouffres d'ombre où ne luit nulle étoile, eux n'ont qu'un bout de planche avec un bout de toile. Souci lugubre. On court à travers les galets. Le flot monte, on lui parle, on crie « Oh, rends-nous les !» Mais hélas, que veut-on que dise à la pensée, toujours sombre, la mer toujours bouleversée ? Janie est bien plus triste encore. Son homme est seul. Seul dans cette âpre nuit. Seul sous ce noir linceul. Pas d'aide. Ses enfants sont trop petits. Ô mère, tu dis « S'ils étaient grands !» Leur père est seul, chimère. Plus tard, quand ils seront près du père et partis, tu diras en pleurant « Oh, s'ils étaient petits !» Elle prend sa lanterne et sa cape. C'est l'heure d'aller voir s'il revient, si la mer est meilleure, s'il fait jour, si la flamme est au mât du signal. Allons, et la voilà qui part. L'air matinal ne souffle pas encore. Rien, pas de ligne blanche dans l'espace où le flot des ténèbres s'épanche. Il pleut. Rien n'est plus noir que la pluie au matin. On dirait que le jour tremble et doute, incertain. Et qu'ainsi que l'enfant, l'aube pleure de naître. Elle va. L'on ne voit luire aucune fenêtre. Tout à coup, à ses yeux qui cherchent le chemin, avec je ne sais quoi de lugubre et d'humain, une sombre masure apparaît, décrépite. Ni lumière, ni feu, la porte au vent palpite. Sur les murs vermoulus branle un toit hasardeux. La bise sur ce toit tord des chaumes hideux, jaune, sale, pareil aux grosses eaux d'un fleuve. « Tiens, je ne pensais plus à cette pauvre veuve, » dit-elle. « Mon mari, l'autre jour, la trouva malade et seule. Il faut voir comment elle va. » Elle frappe à la porte, elle écoute, personne ne répond. Et Janie, au vent de mer, frissonne. Malade ? Et ses enfants, comme c'est mal nourri, elle n'en a que deux, mais elle est sans mari. Puis elle frappe encore. « Hé, voisine ! » elle appelle. Et la maison se tait toujours. « Ah, Dieu ! » dit-elle. « Comme elle dort, qu'il faut l'appeler si longtemps ?» La porte, cette fois, comme si par instant les objets étaient pris d'une pitié suprême, morne, tourna dans l'ombre et s'ouvrit d'elle-même. Elle entra. Sa lanterne éclaira le dedans, du noir logis muet au bord des flots grondants. L'eau tombait du plafond comme des trous d'un crible. Au fond était couchée une forme terrible, une femme immobile et renversée, ayant les pieds nus, le regard obscur, l'air effrayant, un cadavre. Autrefois mère joyeuse et forte, le spectre échevelé de la misère morte, ce qui reste du pauvre après un long combat. Elle laissait parmi la paille du grabat son bras livide et froid et sa main déjà verte pendre, et l'horreur sortait de cette bouche ouverte d'où l'âme, en s'enfuyant, sinistre, avait jeté ce grand cri de la mort qu'entend l'éternité. Près du lit où gisait la mère de famille, deux tout petits enfants, le garçon et la fille, dans le même berceau, souriaient, endormis. La mère, se sentant mourir, leur avait mis sa mante sur les pieds, sur le corps, sa robe, afin que dans cette ombre où la mort nous dérobe, ils ne sentissent pas la tiédeur qui décroît, et pour qu'ils eussent chaud pendant qu'elle aurait froid. Comme ils dorment tous deux dans le berceau qui tremble, leur haleine est paisible, et leur front calme. Il semble que rien n'éveillerait ces orphelins dormants, pas même le clairon du dernier jugement, car étant innocents, ils n'ont pas peur du juge. Et la pluie au dehors gronde comme un déluge. Du vieux toit crevassé d'où la rafale sort, une goutte parfois tombe sur ce front mort, glisse sur cette joue et devient une larme. La vague sonne ainsi qu'une cloche d'alarme. La morte écoute l'ombre avec stupidité. Car le corps, quand l'esprit radieux l'a quitté, a l'air de chercher l'âme et de rappeler l'ange. Il semble qu'on entend ce dialogue étrange entre la bouche pâle et l'œil triste et hagard. Qu'as-tu fait de ton souffle et toi, de ton regard? Hélas, aimez, vivez, cueillez les primes vertes, dansez, riez, brûlez vos cœurs, videz vos verres, comme au sombre océan arrive tout ruisseau, le sort donne pour but au festin, au berceau, aux mères adorant l'enfance épanouie, aux baisers de la chair dont l'âme est éblouie, aux chansons, aux sourires, à l'amour frais et beau, le refroidissement lugubre du tombeau. Qu'est-ce donc que Janie a fait chez cette morte? Sous sa cape l'on plie, qu'est-ce donc qu'elle emporte? Qu'est-ce donc que Janie emporte en s'en allant? Pourquoi son cœur bat-il? Pourquoi son pas tremblant se hâte-t-il? D'où vient quand la ruelle elle court, sans oser regarder derrière elle? Qu'est-ce donc qu'elle cache avec un air troublé dans l'ombre, sur son lit? Qu'a-t-elle donc volé? Quand elle fut rentrée au logis, la falaise blanchissait. Près du lit, elle prit une chaise et s'assit toute pâle. On eût dit qu'elle avait un remords, et son front tomba sur le chevet, et par instants, à mots entrecoupés, sa bouche parlait pendant qu'au loin grondait la mer farouche. « Mon pauvre homme, ah mon Dieu, que va-t-il dire? Il a déjà tant de soucis. Qu'est-ce que j'ai fait, là? 5 enfants sur les bras, ce père qui travaille, il n'avait pas assez de peine. Il faut que j'aille lui donner celle-là de plus. C'est lui? Non, rien. J'ai mal fait. S'il me bat, je dirais tu fais bien. Est-ce lui? Non, tant mieux. La porte bouge comme si l'on entrait. Mais non. Voilà-t-il pas, pauvre homme, que j'ai peur de le voir entrer moi, maintenant? Puis elle demeura pensive et frissonnant, s'enfonçant par degrés dans son angoisse intime, perdue en son souci comme dans un abîme, n'entendant même plus les bruits extérieurs, les cormorans qui vont comme de noirs crieurs, et l'onde et la marée, et le vent en colère. La porte tout à coup s'ouvrit, bruyante et claire, et fit dans la cabane entrer un rayon blanc. Et le pêcheur, traînant son filet ruisselant joyeux, parut au seuil et dit « C'est la marine !»« C'est toi !» cria Janie. Et contre sa poitrine, elle prit son mari comme on prend un amant, et lui baisa sa veste avec emportement, tandis que le marin disait « Me voici, femme !» et montrait sur son front qu'éclairait l'âtre en flamme son cœur bon et content que Janie éclairait. « Je suis volé !» dit-il. « La mer, c'est la forêt. Quel temps a-t-il fait? Dur. Et la pêche, mauvaise. Mais vois-tu, je t'embrasse et me voilà bien aise. Je n'ai rien pris du tout, j'ai troué mon filet. Le diable était caché dans le vent qui soufflait. Quelle nuit! Un moment, dans tout ce tintamarre, j'ai cru que le bateau se couchait et la mare a cassé. Qu'as-tu fait, toi, pendant ce temps-là? » Janie eut un frisson dans l'ombre et se troubla. Moi, dit-elle, ah mon Dieu, rien, comme à l'ordinaire, j'ai cousu, j'écoutais la mer comme un tonnerre, j'avais peur. Oui, l'hiver est dur, mais c'est égal. Alors, tremblante, ainsi que ceux qui font le mal, elle dit, à propos, notre voisine est morte. C'est hier qu'elle a dû mourir, enfin qu'importe, dans la soirée, après que vous fûtes partis. Elle laisse ses 2 enfants qui sont petits. L'un s'appelle Guillaume et l'autre Madeleine. L'un qui ne marche pas, l'autre qui parle à peine. La pauvre bonne femme était dans le besoin. L'homme prit un air grave et jetant dans un coin son bonnet de forçat mouillé par la tempête. « Diable, diable » dit-il en se grattant la tête. « Nous avions 5 enfants, cela va faire 7. Déjà, dans la saison mauvaise, on se passait de souper quelquefois. » Comment allons-nous faire? Bah, tant pis, ce n'est pas ma faute, c'est l'affaire du bon Dieu. Ce sont là des accidents profonds. Pourquoi donc a-t-il pris leur mère à ces chiffons? C'est gros comme le poing, ces choses-là sont rudes. Il faut, pour les comprendre, avoir fait ses études. Si petit, On ne peut leur dire travailler. Femme, va les chercher. S'ils se sont réveillés, ils doivent avoir peur tout seuls avec la morte. C'est la mère, vois-tu, qui frappe à notre porte. Ouvrons aux deux enfants. Nous les mêlerons tous. Cela nous grimpera le soir sur les genoux. Ils vivront. Ils seront frères et sœurs des cinq autres. Quand il verra qu'il faut nourrir avec les nôtres cette petite fille et ce petit garçon, le bon Dieu nous fera prendre plus de poissons. Moi, je boirai de l'eau, je ferai double tâche. C'est dit, va les chercher. Mais qu'as-tu? Ça te fâche? D'ordinaire, tu cours plus vite que cela. Tiens, dit-elle en ouvrant les rideaux, les voilà. Madame, autour de vous. Madame, autour de vous, tant de grâce étincelle, votre chant est si pur, votre danse recèle un charme si vainqueur, un si touchant regard baigne votre prunelle, toute votre personne a quelque chose en elle de si doux pour le cœur, que lorsque vous venez, jeune astre qu'on admire, éclairer notre nuit d'un rayonnant sourire qui nous fait palpiter comme l'oiseau des bois devant l'aube vermeille, une tendre pensée au fond des cœurs s'éveille et se met à chanter. Vous ne l'entendez pas, vous l'ignorez, madame, car la chaste pudeur enveloppe votre âme de ses voiles jaloux, et l'ange que le ciel commit à votre garde n'a jamais à rougir quand rêveur il regarde ce qui se passe en vous. Quand le livre où s'endort chaque soir ma pensée, quand l'air de la maison, les soucis du foyer, quand le bourdonnement de la ville insensée où toujours on entend quelque chose crier, quand tous ces mille soins de misère ou de fête qui remplissent nos jours, cercles à rides bornés, ont tenu trop longtemps comme un joug sur ma tête le regard de mon âme à la terre tournée. Elle s'échappe enfin, va, marche, et dans la plaine prend le même sentier qu'elle prendra demain, qui l'égare au hasard et toujours la ramène comme un coursier prudent qui connaît le chemin. Elle court aux forêts, où dans l'ombre indécise flottent tant de rayons, de murmures, de voix, trouve la rêverie au premier arbre assise, et toutes deux s'en vont ensemble dans les bois. Vois cette branche est rude. Vois, cette branche est rude, elle est noire, et la nue verse la pluie à flots sur son écorce nue. Mais attends que l'hiver s'en aille, et tu vas voir une feuille percer ses nœuds si durs pour elle, et tu demanderas comment un bourgeon frêle peut, si tendre et si vert, jaillir de ce bois noir. Alors, demande pourquoi, ma jeune bien-aimée, quand sur mon âme, hélas, endurcie et fermée, ton souffle passe après tant de maux expiés, pourquoi remonte et court ma sève évanouie, pourquoi mon âme en fleurs et tout épanouie jette soudain des vers que j'effeuille à tes pieds. C'est que tout a sa loi, le monde et la fortune, c'est qu'une claire nuit succède aux nuits sans lune, c'est que tout ici-bas a ses reflux constants, c'est qu'il faut l'arbre au vent et la feuille au zéphyr. C'est qu'après le malheur m'est venu ton sourire. C'est que c'était l'hiver et que c'est le printemps. Où donc est le bonheur? Où donc est le bonheur? Disais-je, infortuné. Le bonheur, ô mon Dieu, vous me l'avez donné. Naître et ne pas savoir que l'enfance éphémère, ruisseau de lait qui fuit sans une goutte amère, est l'âge du bonheur et le plus beau moment que l'homme, ombre qui passe, ait sous le firmament. Plus tard, aimer, garder dans son cœur de jeune homme un nom mystérieux que jamais on ne nomme, glisser un mot furtif dans une tendre main, aspirer aux douceurs d'un ineffable hymen, envier l'eau qui fuit, le nuage qui vole, sentir son cœur se fondre au son d'une parole, connaître un pas qu'on aime et que, jaloux, on suit, rêver le jour, brûler et se tordre la nuit, pleurer sur tout cet âge où sommeillent les âmes, toujours souffrir, Parmi tous les regards de femmes, tous les buissons d'avril, les feux du ciel vermeil ne cherchaient qu'un regard, qu'une fleur, qu'un soleil. Puis, effeuillés en hâte et d'une main jalouse, les boutons d'oranger sur le front de l'épouse, tout sentir, être heureux et pourtant insensé, se tourner presque en pleurs vers le malheur passé, voir au feu de midi, sans espoir qu'il renaisse, se faner son printemps, son matin, sa jeunesse, perdre l'illusion, l'espérance, et sentir qu'on vieillit au fardeau croissant du repentir, effacer de son front des taches et des rides, s'éprendre d'art, de vers, de voyages arides, de cieux lointains, de mers où s'égarent nos pas, redemander cet âge où l'on ne dormait pas, se dire qu'on était bien malheureux, bien triste, bien fou, que maintenant on respire, on existe, et plus vieux de 10 ans, s'enfermer tout un jour pour relire avec pleurs quelques lettres d'amour. Vieillir enfin, vieillir, comme des fleurs fanées, voir blanchir nos cheveux et tomber nos années, rappeler notre enfance et nos beaux jours flétris, boire le reste amer de ces parfums aigris, être sage et railler l'amant et le poète, et lorsque nous touchons à la tombe muette, suivre en les rappelant d'un œil mouillé de pleurs nos enfants qui déjà sont tournés vers les leurs. Ainsi l'homme, ô mon Dieu, marche toujours plus sombre du berceau qui rayonne au sépulcre plein d'ombre. C'est donc d'avoir vécu, c'est donc avoir été. Dans la joie et l'amour et la félicité, c'est avoir eu sa part, et se plaindre est folie. Voilà de quel nectar la coupe était remplie. Hélas, naître pour vivre en désirant la mort, grandir en regrettant l'enfance sous le cœur d'or, vieillir en regrettant la jeunesse ravie, mourir en regrettant la vieillesse et la vie. Où donc est le bonheur, disais-je? Infortuné, le bonheur, oh mon Dieu, vous me l'avez donné. Pour les pauvres. Dans vos fêtes d'hiver, riches, heureux du monde, quand le bal tournoyant de ses feux vous inonde, quand partout alentour de vos pas vous voyez briller et rayonner cristaux, miroirs, balustres, candélabres ardents, cercles étoilés des lustres, et la danse et la joie au front des conviés, tandis qu'un timbre d'or sonnant dans vos demeures vous change en joyeux chant la voix grave des heures. Oh, songez-vous parfois que, de faim dévoré, peut-être un indigent dans les carrefours sombres s'arrête et voit danser vos lumineuses ombres aux vitres du salon doré. Songez-vous qu'il est là sous le givre et la neige, ce père sans travail que la famine assiège, et qu'il se dit tout bas, pour un seul que de bien, à son large festin que d'amis se récrient, ce riche et bienheureux, ses enfants lui sourient, rien que dans leurs jouets, que de pain dans les, pour les miens. Et puis, à votre fête, il compare en son âme son foyer où jamais ne rayonne une flamme, ses enfants affamés et leur mère en lambeaux, et sur un peu de paille étendue et muette, l'aïeul que l'hiver, hélas, a déjà faite assez froide pour le tombeau. Car Dieu mit ses degrés aux fortunes humaines. Les uns vont tout courbés sous le fardeau des peines. Au banquet du bonheur, bien peu sont conviés. Tous n'y sont point assis, également à l'aise. Une loi qui d'en bas semble injuste et mauvaise, dit aux uns jouissez, aux autres enviez. Cette pensée sombre, amère, inexorable, et fermant en silence au cœur du misérable, riche, heureux du jour qu'endort la volupté, que ce ne soit pas lui qui des mains vous arrache tous ces biens superflus où son regard s'attache. Oh, que ce soit la charité, l'ardente charité que le pauvre idolâtre, mère de ceux pour qui la fortune est marâtre, qui relève et soutient ceux qu'on foule en passant, qui lorsqu'il le faudra se sacrifie toute, comme le dieu martyr dont elle suit la route, dira « Buvez, mangez, c'est ma chair et mon sang. » Que ce soit elle, oh oui, riche, que ce soit elle qui, bijoux, diamants, rubans, hochets, dentelles, perles, saphirs, joyaux, toujours faux, toujours vains, pour nourrir l'indigent et pour sauver vos âmes, des bras de vos enfants et du sein de vos femmes, arrache tout à pleine main. Donnez, riche, l'aumône est sœur de la prière. Hélas, quand un vieillard sur votre seuil de pierre, tout roidi par l'hiver, en vain tombe à genoux, quand les petits enfants, les mains de froid rougies, ramassent sous vos pieds les miettes des orgies, la face du Seigneur se détourne de vous. Donnez, afin que Dieu, qui dote les familles, donne à vos fils la force et la grâce à vos filles. Afin que votre vigne ait toujours un doux fruit, afin qu'un blé plus mûr fasse plier vos granges, afin d'être meilleur, afin de voir les anges passer dans vos rêves la nuit. Donnez, il vient un jour où la terre nous laisse, vos aumônes là-haut vous font une richesse. Donnez, afin qu'on dise, il a pitié de nous. Afin que l'indigent que glacent les tempêtes, que le pauvre qui souffre à côté de vos fêtes, au seuil de vos palais, fixe un œil moins jaloux. Donnez, pour être aimé du Dieu qui se fit homme, pour que le méchant même en s'inclinant vous nomme, pour que votre foyer soit calme et fraternel, donnez, afin qu'un jour, à votre heure dernière, contre tous vos péchés, vous ayez la prière d'un mendiant puissant au ciel. La coccinelle. Elle me dit : quelque chose me tourmente. Et j'aperçus son cou de neige et dessus un petit insecte rose. J'aurais dû, mais sa joue fou à 16 ans en effarouche, voir le baiser sur sa bouche plus que l'insecte à son cou. On eût dit un coquillage d'eau rose et taché de noir. Les fauvettes pour nous voir se penchaient dans le feuillage. Sa bouche fraîche était là. Je me courbai sur la belle et je pris la coccinelle, mais le baiser s'envola. « Fils, apprends comme on me nomme, dit l'insecte du ciel bleu. Les bêtes sont au bon Dieu, mais la bêtise est à l'homme. » En écoutant les oiseaux. Oh, quand donc aurez-vous fini, petits oiseaux, de jaser au milieu des branches et des eaux, que nous nous expliquions et que je vous querelle, rouge-gorge, verdier, fauvette, tourterelle. Oiseaux, je vous entends, je vous connais. Sachez que je ne suis pas dupe, ô doux ténor caché, de votre mélodie et de votre langage. Celle que j'aime est loin et pense à moi, je gage. Ô rossignol, dont l'hymne exquis et gracieux donne un frémissement à l'astre dans les cieux, que ce que tu dis là, c'est le chant de son âme. Vous guettez les soupirs de l'homme et de la femme, oiseau, quand nous aimons et quand nous triomphons, quand notre être tout bas s'exhale en chant profond, vous, attentif, parmi les bois inaccessibles, vous saisissez au vol ces strophes invisibles, et vous les répétez tout haut, comme de vous, et vous mêlez pour rendre encore l'hymne plus doux à la chanson des cœurs le battement des ailes. Si bien qu'on vous admire, écouteurs infidèles, et que le noir sapin murmure aux vieux tilleuls, sont-ils charmants d'avoir trouvé cela tout seul? Et que l'eau, palpitant sous le champ qui l'effleure, baise avec un sanglot le beau saule qui pleure, et que le dur tronc d'arbre a des airs attendris, et que l'épervier rêve, oubliant la perdrix, et que les loups s'en vont songer auprès des louves. Divin, dit le hibou, le moineau dit, tu trouves ? Amour, lorsqu'en nos cœurs tu te réfugias, l'oiseau vint y puiser, ce sont ces plagiats, ces chants qu'un rossignol, belle, prend sur vos bouches, qui font que les grands bois courbent leur front farouche, et que les lourds rochers stupides et ravis se penchent, les laissant piller le chêne-vie, et ne distinguent plus dans leurs rêves étranges la langue des oiseaux de la langue des anges. Le poète s'en va dans les champs, il admire, il adore, il écoute en lui-même une lyre. En le voyant venir, les fleurs, toutes les fleurs, celles qui des rubis font pâlir les couleurs, celles qui des pans même éclipseraient les queues, les petites fleurs bleues, prennent pour l'accueillir, agitant leurs bouquets de petits airs penchés ou de grands airs coquets. Et familièrement, car cela s'y est aux belles, tiens, c'est notre amoureux qui passe, disent-elles. Et plein de jours et d'ombres et de confuses voix, les grands arbres profonds qui vivent dans les bois, tous ces vieillards, les ifs, les tilleuls, les érables, les saules touridés, les chênes vénérables, l'orme aux branchages noirs de mousse appesantie, comme les ulémas qu'emparait le moufti, lui font de grands saluts et courbent jusqu'à terre leurs têtes de feuillets et leurs barbes de lierre, contemple de son front la sereine lueur et murmure tout bas, c'est lui, c'est le rêveur.